Et vous écoutez France Culture. Ah, je ne sais pas écrire pour les enfants. Ce sont des êtres insondables. Fantasio, Émile Bravo. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à Bruxelles ce soir pour y rencontrer le dessinateur et scénariste Émile Bravo, dont Un peu plus loin vers l'horreur, second volet de L'espoir malgré tout, série consacrée aux aventures belges et surtout bruxelloises de Spirou et Fantasio sous l'occupation, sort aux éditions Dupuis. Bonjour Émile Bravo.
Bonjour.
Merci de nous accueillir à Bruxelles, qui est un peu votre ville, et donc où se passe en quasi-totalité cette seconde épisode des quatre aventures de Spirou et Fantasio sous l'occupation. Mais avant cela, on va évidemment, le rituel l'oblige, on va laisser Antoine Guillot vous présenter à ceux de nos auditrices et auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Alors Antoine, Émile Bravo, en quelques traits essentiels.
Très principal, Émile Bravo est un panda. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Quand on lisait l'autobiographie de Lewis Trondheim, approximativement, puisqu'il était représenté sous les traits d'un panda, membre éminent de l'atelier Nawak au début des années 90, donc où se réunissait toute la bande qui crée l'association. Et Émile Bravo a cette particularité dans cette génération, c'est que tout en appartenant à cette bande, il a tout de suite eu un trait qu'on pourrait dire néoclassique, c'est-à-dire qu'il a réinventé la ligne claire de Hergé pour l'acclimater à sa sauce, et surtout, notamment avec la formidable série Les épatantes aventures de Jules, faire des bandes dessinées à destination des enfants, mais qui les prennent très au sérieux, avec une narration extrêmement dense, c'est-à-dire que c'est vraiment le principe Hergé, beaucoup de cases, beaucoup de textes, prenant très au sérieux ses lecteurs. Voilà, moi, c'est ce qui m'a tout de suite frappé. Il avait fait aussi un livre très troublant et très émouvant, Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, qui parlait de la perte, du manque, de l'absence d'une mère. Et puis, il y a 10 ans, il y a eu ce coup de tonnerre qui a été le journal d'un ingénu et qui revenait au Spirou de l'origine, c'est-à-dire le Spirou d'Europe Velle revu par Jigé, mais dans le style de Tintin, avec des clin d'œil même, puisqu'on voyait Spirou en culotte de golf et petite chemise jaune, et tout le monde se moquait de lui, on dirait Tintin. Et effectivement, il y a ça, avec surtout, et ça on le verra quand on commentera, les planches de Bravo sous nos yeux dans le musée où nous allons aller, ce trait qui est très charbonneux, c'est-à-dire un trait un peu évanescent, un peu inquiet, comme s'il dessinait au crayon gras et qu'il n'ancrait pas. Et qui donne en même temps une vie, puisque ce trait bouillonne comme ça de vie, de perte et de mouvement. Donc c'est du Hergé revu par Franquin en revenant à Jigé.
Très belle définition du trait, en tout cas. On ne l'avait jamais décrite de cette façon, mais oui, c'est un peu ça. Enfin, dans mon esprit, il me semble que c'est ça. Quand je l'analyse, des fois, je pense à toutes ces références. C'est juste un truc, hein, c'est pour ceux qui me connaissent, Bruxelles n'est pas ma ville. Hein.
Si, si.
Non, si, bien sûr. C'est celle de Spirou avant tout. Voilà.
Alors on va revenir sur la présentation d'Antoine, Émile Bravo. D'abord le panda. Comment se fait-il que vous ayez été totémisé par un panda? Le panda est un animal sympathique, câlin, qu'on protège. Alors est-ce que déjà à l'atelier Nawak, puis à l'atelier des Vosges, vous aviez été celui qu'on protégeait? Dites-nous.
Je ne sais pas trop, il faudrait demander à Lewis Trondheim, parce que c'est lui qui a eu cette idée-là. Après... quoi, il paraît que j'ai un regard un petit peu triste, alors ça doit être peut-être ça, je sais pas, cette espèce des yeux peut-être un peu tombants, comme les taches noires du panda, en fait. Ouais, peut-être un petit côté nounours. Il doit y avoir un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une série pour les enfants qui s'appelle les 7 ours nains, et des fois les gens me disent oh, bah, tu ressembles à un ours nain. Merci.
Deuxième élément, le sérieux avec lequel vous prenez vos lecteurs, effectivement, il n'y a qu'à voir les 3 albums dont on dispose pour ces aventures de Spirou et Fantasio sous l'occupation, et notamment en Belgique, pour voir que vous prenez vos lecteurs très au sérieux, et les personnages au premier chef. Effectivement, tout est très précis, le climat historique, les éléments politiques, sociologiques, le rythme de vie, les objets, les lieux de vie sont extrêmement détaillés. C'est une volonté chez vous pédagogique de raccorder avec toute une époque qui aujourd'hui peut être traitée d'un peu de manière pas forcément sérieuse.
Alors, oui, je les prends sérieusement, mais je ne me prends pas non plus au sérieux. Hein, attention, il y a ça aussi. Mais en gros, pour expliquer en deux mots ce que je fais, c'est vrai que ça reçoit. D'abord, mes modèles, c'est Hergé, c'est Franquin, c'est Goscinny. Et avant tout, moi, si je fais ce métier-là, c'est parce que j'ai envie de transmettre, en fait. Parce que la bande dessinée m'a énormément appris quand j'étais enfant. Et je pense que c'est un média, justement, qu'il faut. Il faut pas le prendre sérieusement, mais c'est un média qui nous construit aussi, qui construit les enfants, qui aide vraiment à développer en fait en tout cas à répondre à sa curiosité d'enfant et qui développe l'intelligence de l'enfant. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça que très vite en fait, moi je me suis orienté vers la jeunesse en fait. Je trouvais ça très important, contrairement, c'est vrai, à tous les amis de l'association et autres. Qui essayait plutôt de faire de la bande dessinée adulte. Moi, très vite, cette jeunesse, il fallait absolument occuper ce créneau-là. Je trouvais que, c'est-à-dire qu'en voyant les enfants d'amis, les nouvelles générations lire finalement ce que je lisais moi, qui était déjà lu par les parents, je me suis dit il faut absolument s'occuper de ces enfants. Il leur apportait en fait ces bandes dessinées par lesquelles en fait on se découvrait, on arrivait à mieux se comprendre et à comprendre le monde dans lequel on vit. Ça a toujours été ça ma démarche en fait.
Pour reprendre les mots que François Orgelier a choisi en exergue sur la difficulté à écrire pour les enfants, on n'y comprend rien à ces êtres étranges. Quelles questions vous vous posez sur qu'est-ce que je peux raconter ? Parce que là, donc, vous plongez Spirou et Fantasio dans l'horreur. Vous abordez des questions très graves, on le verra tout à l'heure devant les planches. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme ? Qu'est-ce que c'est que la déportation ? Des questions politiques très troubles. Et alors, comment vous placez le curseur entre ce qui va choquer ou pas, ce qui va inquiéter ou pas ? Est-ce que des enfants vont pouvoir comprendre une complexité politique extrêmement profonde à ce moment-là de l'histoire de la Belgique et de la France, évidemment ?
Bah en fait, c'est pas très compliqué. Je me souviens vraiment parfaitement de mon enfance et dans quel état d'esprit j'étais, les questions que je me posais. J'en suis à peu près certain, c'est que tout ce que je raconte s'adresse vraiment à l'enfant que j'étais. Parce que j'avais vraiment beaucoup de questions. Je raconte souvent, et c'est vrai que tout commence là. Moi, je suis un fils de républicain espagnol. Et mon père m'a dit, quand j'avais à peu près 10 ans, sans Hitler et Mussolini, tu n'existerais pas. Mais ce qui est le cas pour tout le monde, en fait, aujourd'hui, quand on prend du recul. Mais à cette époque-là, je l'ai pris comme une affaire personnelle. Donc je me suis dit, il faut absolument que je comprenne cette époque, parce que quand on a 10 ans, on découvre vraiment toutes ces images d'horreur, en fait, des camps. Et on se dit, mon Dieu, il a fallu passer par ça pour que j'existe. Donc en résumé, on cherche à savoir comment l'inhumanité m'a engendré. Et donc, voilà, je me suis plongé à cette époque. Ces questions-là, en fait, se posent depuis vraiment tout petit. Et c'est vrai que le thème de la déportation, et notamment raciale aussi, parce que je m'identifiais. Quand on est enfant, on est très sensible à l'injustice. Et je m'identifiais quand on voit des images de femmes, d'enfants, de vieillards morts. On se dit, c'est plus des soldats là, c'est nous qui subissons tout ça. Et c'était un vrai, moi je me souviens, ça me faisait faire des cauchemars. Et à partir de là, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et évidemment, peu à peu, c'est là où en fait ça devient intéressant. C'est qu'au début, on se dit, on trouve ça monstrueux, le nazisme. On cherche en fait une culpabilité. On se demande qui est le responsable de tout ça. Et là où ça devient terrifiant, mais en grandissant, voilà, on s'aperçoit que c'est nous. En fait, on est tous responsables. Et c'est peut-être ça qu'il faut dire aux enfants. Et les méchants, c'est pas les autres, c'est pas les étrangers, c'est pas l'autre, c'est nous, en fait. Et là, voilà quoi. Je pense que plus c'est dit tôt, mieux c'est assimilé, en fait, par un être humain.
C'est pour ça que dans la bande des quêtieux de Bruxelles, comme on les appelait à l'époque de Kike Flup, que vous montrez des enfants qui sont des enfants de collabos, des enfants de communistes, des enfants juifs qui prennent conscience tout d'un coup qu'ils sont juifs, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire, est-ce que c'est grave d'être juif, etc. Et que vous montrez cette complexité-là dont je parlais, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas forcément responsables de ce que pensent leurs parents, mais en revanche, ils le restituent sur le terrain de jeu.
Bien sûr.
Ça part d'un principe très simple. Moi, étant donné que je viens de deux cultures, en fait, et la culture espagnole et la culture française, et vu ce que m'a dit mon père, en fait, en gros, le constat est très simple, c'est j'aurais pu naître n'importe où, j'aurais pu être aussi bien espagnol que français, que belge, qu'allemand, et puis aussi bien catholique que juif, que protestant, que bouddhiste. Et à une autre époque, on aurait pu naître... Enfin, c'est le hasard, on comprend bien que c'est le hasard, en fait, qui fait qu'on est là, quoi. Donc à partir de là, on peut avoir que de l'empathie pour cette injustice dont je parlais. Et puis je me souviens très bien que quand on était enfant, ces barrières-là, on voyait bien que c'était les barrières aussi transmises par les parents. Je veux dire, la politique, on y comprenait absolument rien, mais quand on voyait des enfants parler de politique, on savait très bien ce que pensaient leurs parents. Je raconte souvent en fait que ma première confrontation au racisme, et je m'en souviens très très bien parce que c'était en primaire et j'avais un copain qui était noir et un autre l'a traité un jour de Blanche-Neige. Et je ne comprenais pas pourquoi il l'avait appelé comme ça, mais comme je voyais que ça faisait de la peine à mon copain, je me disais, ah ben c'est, en fait c'est une insulte. Mais cet autre garçon qui l'avait traité de Blanche-Neige, en fait, après, je l'ai découvert, et il parlait souvent de son père, et son père avait fait la guerre d'Algérie, et son père lui avait parlé des Arabes et des Noirs, et c'était ça, c'était terrible ce que lui avait transmis son père. Enfin voilà, on sentait que le gars était complètement malade, qu'il avait été traumatisé, et qu'il avait une haine incroyable, quoi, qu'il arrivait à transmettre à ses enfants. Et c'est là où on se dit, non, à la base, on n'est pas comme ça. À la base, quand on est enfant, voilà, j'ai le souvenir plutôt de me joindre à n'importe quel groupe d'enfants. Enfin, quand on part en vacances et quand on arrive quelque part, on ne connaît personne, tout de suite, les enfants, ils se font des amis, quoi. Il n'y a pas d'a priori, quoi. Et c'est après, voilà, c'est le problème, c'est espèce de, d'endoctrinement, qu'il soit familial ou qu'il soit politique ou qu'il soit religieux, on n'arrive pas à développer le libre arbitre des enfants. Il faut toujours que ce soit, en fait, finalement, l'idée des parents, en fait, ou des adultes, en fait. Et ce serait ça, en fait, l'idéal, c'est d'essayer de trouver une éducation ou une éducation assez libre, en fait, qui laisse l'enfant, qui lui laisse, en fait, la possibilité de comprendre le monde dans lequel il vit avant tout, quoi.
Alors, Émile Bravo, nos auditeurs, auditrices l'auront remarqué, nous sommes au buffet de la gare de Bruxelles. Bruxelles midi, pourquoi ? Pourquoi avons-nous démarré immédiatement l'entretien à peine descendu du train ? C'est parce que les trains sont essentiels dans ce tome, ce second tome de cette tétralogie Spirou sous l'occupation. On commence avec des trains, on finit avec des trains. Dans le premier, c'est un train comme on en voit un peu, je sais pas, dans Une femme disparaît d'Hitchcock ou dans les films d'espionnage. Et le dernier train, par contre, c'est un train, c'est le train de la mort. Donc là aussi, il y a ces un élément essentiel dans le récit, ces gares et ces trains.
Déjà, je sais pas, inconsciemment, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les trains. J'avais un train électrique, tout ça, ça me fascinait assez. Et puis après, on s'aperçoit que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, le train, c'est quelque chose d'assez important. Et cette histoire, en fait, le train a servi aussi bien, en fait, à transporter tout le matériel des armées, mais aussi, et aussi pour les mouvements de population, aussi bien, en fait, pour aller travailler pour les populations qui allaient travailler en fait en Allemagne, et comme évidemment la déportation. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait un peu peur quand j'étais enfant, c'était en fait ces trains qui partaient vers l'Est. C'est ce mot, c'est l'Est, en fait, qui, quand on connaît un petit peu l'histoire, quelque part, c'est un petit peu synonyme de déportation et de mort, en fait. Et plus on part vers l'Est, plus c'est terrible. Et j'ai cette idée-là, en fait, depuis l'enfance. Et c'est ce que j'ai voulu évoquer. C'est que dans le premier épisode, c'est un train, en fait, qui part effectivement en Allemagne, qui part vers l'Est. Mais c'est un train de passagers, c'est un train normal. On en descend très vite, Et dans ce deuxième épisode, c'est vraiment un train alors là, qui part beaucoup plus loin dans l'est, vers l'est, donc vers la mort. Et là, pour l'instant, Spirou reste dans ce train. Et c'est là où ça devient angoissant.
Cette scène se passe non pas à Bruxelles Midi, où nous sommes, mais à la gare du Nord, Bruxelles Nord, gare rendue célèbre par une vignette fameuse, celle de la foule accompagnant Tintin, l'accueillant. Et quand on rentre ici, même dans cette gare de Midi, on a des vignettes de cet album de Tintin au pays des Soviets, Tintin juché sur une locomotive, comme ça, puis à la gare de Moulinsart. Est-ce qu'il y avait aussi inconsciemment cette résurgence de cette image, puisque, encore une fois, ce Spirou est très lié à Tintin?
Bien sûr, non, mais j'en suis conscient. Quand je dessine la gare du Nord, je vois Tintin qui revient de chez les Soviets avec toute la foule. Oui, et puis en fait, c'est bourré de petites choses. Je pense que j'ai plus puisé en fait dans l'univers d'Hergé au niveau du décor, de l'ambiance, que dans l'univers de Franquin. Ce qui est évident, pour quelle raison? C'est que l'univers de Franquin, en fait, il démarre en 1946, dans l'après-guerre. Quoi. Et moi, j'ai besoin en fait de cette ambiance avant-guerre, où pendant la guerre même, parce qu'il y a certains albums d'Hergé qui se passent vraiment pendant la guerre. Vous prenez l'étoile mystérieuse ou les sept boules de cristal, c'est vraiment fait pendant l'occupation, quoi. Et on la sent, cette ambiance, on vraiment la sent. Et c'est plus en fait à travers ces albums-là, cette ambiance-là, que c'est ce qui m'a inspiré pour faire cette histoire, l'espoir malgré tout.
Autre chose sur l'univers de Tintin, c'est que Hergé apparaît quand même comme une sorte de fantôme dans ce... Enfin, il y a plusieurs fantômes d'ailleurs, on en reparlera d'un autre, mais Hergé est un des fantômes du livre, puisqu'il est beaucoup mention du soir volé, donc ce journal qui avait été récupéré par des collaborateurs des nazis pour continuer à apparaître, et que la population appelait le soir volé. Or, qu'est-ce qui paraissait dans le soir volé? Les aventures de Tintin.
Absolument, mais je ne l'évoque pas. En fait, il est là, il est présent, effectivement. On voit Fantasio qui collabore au soir, et puis on a surtout Spirou qui est habillé en Tintin, et on lui fait remarquer. Et donc, on comprend que le soir collabore, et effectivement, si on sait que Hergé a travaillé pour le soir, Hergé a collaboré.
Très bien, on va terminer cette première halte à la gare de Bruxelles, à votre compagnie Mille Bravo, et puis se diriger vers une exposition qui vous est consacrée, donc à vous et à Spirou sous l'occupation.
Changement de voie, le train hissé à destination de Louvain-Liège-Guivin de 11h39, voie 14 au lieu de voie 12.
Spoor 12, spoor de hissé train naar Leuven, le Bine, van 11 uur 39, spoor 14 in plaats van spoor 12.
À destination de Zottegem et Courtrai de 11h39, voie 16.
Spoor 16, de IC-trein naar Zottegem en Kortrijk van 11 uur 37, spoor 16.
Alors Émile Bravo, nous avons quitté la gare du Midi, les bruits des trains à l'arrivée, des bruits des trains en partance, l'animation du buffet pour nous retrouver à la maison de région où est installée une exposition entièrement consacrée donc aux planches et aux albums des aventures de Spirou sous l'occupation. Mais avant de rentrer dans cet univers graphique et d'analyser pas case par case, mais planche par planche peut-être ce qui est présenté, Antoine Guillon, on peut dire quelques mots du magazine Spirou sous l'occupation, avec notamment la personnalité de son rédacteur en chef de l'époque, Jean Doisy, qui lui a claqué la porte à la collaboration, à la différence de certains directeur de presse du temps, et qui lui, par contre, a fait front.
Il n'y a pas de Spirou volé, en fait, parce que la famille Dupuis a refusé qu'on fasse entrer un administrateur allemand dans le conseil d'administration des éditions Dupuis, et mesures de rétorsion immédiates, on arrête le magazine Spirou. Alors, il y avait déjà des difficultés pour le faire paraître à cause du contingentement du papier, etc. Il faut rappeler que les Dupuis étaient des imprimeurs au départ, mais le journal s'arrête sur décision allemande, mais il va continuer à survivre, en fait, de manière épisodique. On va sortir un almanach Spirou, par exemple, qui va reprendre les héros du journal, hein, les Spirou évidemment, mais Valardi aussi et autres. Et puis il va y avoir cette idée géniale du rédacteur en chef Jean Doisy de créer ce théâtre du Farfadet, c'est-à-dire théâtre de marionnettes avec les personnages de Spirou qui vont faire survivre, comme ça, un peu dans l'esprit des enfants. Les personnages, il y aura toujours les amis de Spirou, les fameuses ADS qui vont continuer. Et en fait, Jean Doisy est une personnalité très importante parce que c'est un résistant. Il est communiste. La famille Dupuis, qui sont de bons catholiques, l'ignore très probablement. Mais lui, il va se servir. Et c'est ça aussi qui est raconté dans ce Spirou sous l'occupation, raconté par Émile Bravo, va se servir de ce théâtre de marionnettes pour faire passer des messages pour en faire un réseau de résistance. Et on raconte même que dans les messages qui concernaient les amis de Spirou, il y avait des messages cachés, comme ça, publiés à l'intérieur même du magazine quand il paraissait encore. Donc Jean Doisy, figure très importante, aussi parce que c'est lui qui a inventé le personnage de Fantasio, cette personnalité un peu fantasque qu'on va voir se développer dans ses aventures. Et tout ça nous avait été raconté dans Mauvais Genre il y a quelques années déjà, mais ça doit pouvoir se trouver en podcast par les Pissavi Hivernaux, historiens très importants du journal Spirou.
Alors Émile Bravo, ce théâtre de marionnettes, théâtre du Farfadet, historiquement créé par Jean Doisy, mais imaginairement repris par vous, donc dans ce tome 2 de la tétralogie Spirou, il va permettre quand même à nos deux héros de subvenir, puisque l'un n'a plus l'hôtel moustique, est détruit par une bombe. Il y a tout un passage extraordinaire où une bombe qui était tombée dans les caves explose grâce à une manipulation imprudente du sergent Garcia local, qui est l'énorme majordome entresol. Donc l'hôtel moustique est détruit, Spirou n'a plus de travail, puis Fantasio se fait virer de son journal. Donc d'une certaine façon, il faut trouver de quoi survivre, de quoi subvenir, et arrive cet étonnant théâtre de marionnettes portable, démontable, qu'on transporte à vélo. Et donc ça va vous permettre, ce théâtre de marionnettes, d'évoquer toute une série de milieux, les milieux cléricaux, les milieux ruraux, puisqu'ils arrivent chez un fermier, et puis surtout de rendre justice une fois de plus à l'extraordinaire monde de l'enfance, parce que là, les gamins sont là en permanence, parce que non seulement ils réagissent bien sûr au spectacle lui-même, mais ils font participer les adultes qui sont là. Émile Bravo.
Spirou existe réellement, mais pas le journal. Donc pas le personnage de Spirou, donc le journal n'existe pas, en fait Jean Doisy n'existe pas, enfin dans mon aventure. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai gardé, c'est quelque chose qui est évoqué dans L'Armée des Ombres, où en fait on voit que les résistants se donnent rendez-vous au théâtre de Guignol à Lyon, et on sent bien, en fait c'est là où je trouvais que c'était intéressant de montrer que l'occupant en fait ne s'intéresse pas non plus au monde réellement des enfants, tout ce qui leur paraît ludique, enfin si ils s'occupaient des jeunesses hitlériennes, hein, mais la petite enfance, le côté ludique de la petite enfance, finalement pour eux c'est pas, il y a rien de sérieux et il y a rien de dangereux en fait dans le monde de l'enfance. Donc finalement c'est peut-être sans doute le meilleur endroit où se donner rendez-vous pour les opposants, pour la résistance, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, enfin de réutiliser en fait. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'est que en fait dans mon album Spirou n'est pas résistant du tout, en fait c'est la résistance qui se sert de Spirou et Fantasio. Voilà, et puis il vaut mieux d'ailleurs qu'il soit pas au courant, parce que moins on est au courant, mieux c'est, quoi, en cas de problème. Donc c'est surtout ça qui m'amusait en fait de développer. Puis le côté évidemment, comme dans le théâtre du Farfadet de Jean Doisy, le héros c'est quand même Spirou, quoi. C'est Spirou et Fantasio. Et ça aussi, je voulais expliquer que c'est une façon d'expliquer qu'ils sont absolument toujours liés à l'enfance, quoi.
Précisément, c'est ce lien à l'enfance, je crois, qui rend votre restitution de l'occupation allemande à Bruxelles aussi précieuse, aussi unique et aussi inédite. Parce qu'il y a eu un autre Spirou qui se passe pendant l'occupation allemande, toujours dans cette même série de Spirou et Fantasio, vu par C'était vu par Yann et Schwartz, c'était le groom vert de gris. Et alors, là, on est avec un Spirou beaucoup plus actif, un héros d'aventure traditionnel qui va botter les fesses à l'occupant allemand, beaucoup de gags, etc. Vous maintenez à la fois ce climat très pesant, ce climat d'horreur, mais tout est vu par ces grands-enfants que sont Spirou et Fantasio. Alors, vous avez d'un côté l'ingénu, c'est-à-dire celui qui tombe des nues chaque fois qu'arrive une manifestation d'antisémitisme, de collaboration, de déportation. Enfin, il est très surpris par ce qui arrive. Et puis, il y a l'abruti, un peu l'abruti sympathique qui est joué par Fantasio, qui, lui, comprend tout de travers, prend tout à la légère, et qui, en même temps, étant malgré tout dans l'action, arrive presque malgré lui à avoir des actions héroïques. Alors, comment on trouve ce curseur, voilà, très, très particulier pour pouvoir restituer cette horreur avec cette distance qui est celle de l'enfance, mais sans jamais transiger sur la dureté et l'horreur de ce qu'on va raconter?
Encore une fois, c'est toujours le même processus. Moi, je me replonge dans mon enfance et il y avait quelque chose, en fait, que j'ai essayé de faire. Et à mon avis, c'est peut-être ce qui était le plus dur, mais le plus passionnant, c'est de vraiment me replonger à cette époque. Parce que, comme je dis souvent, on s'est tous posé la question, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, pendant cette période, nous qui ne l'avons pas vécu. C'est vrai que je me suis dit, quand je me suis lancé dans ce projet, déjà, je me suis dit, développons en fait l'enfant qu'est Spirou, développons ce personnage à travers ce traumatisme qui a été la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, moi, ça m'a permis de vivre objectivement cette période, en me disant que ce qu'il fallait faire avant tout, c'était sans doute survivre, comme on fait la plupart des gens. Et donc toujours à travers en fait les yeux de cet enfant, c'est vrai que mon père qui a vécu cette période et qui a vécu aussi la guerre d'Espagne, en fait, quand il me parlait en fait de la survie, parce que comme il me disait, en fait, sa guerre, c'était surtout une opération de survie. Lui, étant très jeune, avait absolument besoin de vivre. Il ne connaissait absolument rien à la vie. Et il avait besoin de... Il disait, ça ne peut pas s'arrêter ici. Et je pense que pour Spirou, c'est un petit peu la même chose. On vient de lui ouvrir les yeux. Il a une histoire d'amour. Il aime quelqu'un. On lui a arraché cette personne. Et il veut la retrouver. Il veut vivre, surtout. Il veut vivre cette histoire d'amour. Et puis, voilà, quoi. Et donc, là, pour l'instant, comme il est entraîné dans le pire moment, en fait, du 20e siècle, avant de vivre quoi que ce soit, il faut d'abord survivre. Comme j'essaye de comprendre cette époque depuis l'âge de 10 ans, en fait, j'ai toujours demandé, chaque fois que j'ai croisé en fait des personnes qui avaient vécu ou qui avaient l'âge d'avoir vécu cette époque, je leur ai toujours demandé comment ça s'était passé, sans doute parce que j'étais à la recherche de héros, de résistants, de gens qui s'étaient battus contre le nazisme, et en fait j'ai pas trouvé de résistance, j'ai trouvé que des gens qui me disaient toujours la même chose. Oh ben nous, on n'a pas tout ce qu'on pensait à cette époque-là, c'est manger parce qu'on avait faim et puis on avait peur, quoi. Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut raconter aux enfants, en leur disant évidemment que finalement être un héros à cette époque-là, étant donné en fait cette pression qu'il y a et puis cette pression du quotidien, c'est déjà de se dire c'est de rester humain en fait, et finalement c'est comme ça que je vois Spirou, puisque c'est un humaniste, c'est un enfant humaniste qui a beaucoup d'empathie, malgré tout, malgré le fait que on a l'impression que tout est perdu, et malgré en fait son manque de conscience politique, parce qu'il n'a aucune conscience politique, là c'est le début, il est anti-nazi simplement pour une raison, c'est parce qu'il est amoureux d'une fille qui elle est communiste et juive, mais il semble même savoir, lui il ne sait même pas ce qu'est ni le communisme ni la judéité, donc voilà quoi, il passe ce moment et pour l'instant il essaye simplement de survivre, comme l'ont fait la plupart des gens en Europe.
Thank you.
Nous sommes avec vous à Bruxelles, Émile Bravo, mais un Bruxelles qui évidemment n'a plus rien à voir avec le Bruxelles des années 40 pour plusieurs raisons. D'abord parce que Bruxelles est une ville en mutation permanente. Hein. C'est ce qu'ont raconté notamment Scoyton et Peters dans leur livre. Ça pousse, ça se détruit, ça construit des horreurs sans arrêt. Aussi parce que c'est une ville qui a été largement bombardée. Ça, vous le racontez dans votre livre, Émile Bravo. Alors, comment vous vous êtes replongé dans l'ambiance graphique de cette époque? On est là devant une case agrandie, Bruxelles, janvier 40, donc c'est avant même les bombardements. On voit ce tram 83, on voit une palissade, des terrains vagues. Il y a beaucoup de terrains vagues dans votre histoire. Et puis on voit ce fameux palais de justice de Bruxelles qu'on ne connaît, nous, qu'avec des échafaudages, qui ont l'air d'avoir été là depuis la construction même du palais. Mais preuve graphique, il y a eu une époque où il n'y avait pas d'échafaudage. D'où vient ce Bruxelles et comment vous vous y plongez, ce Bruxelles que vous dessinez, Émile Bravo?
Eh ben, faut dire que c'est surtout grâce à la documentation d'époque, mais comme je disais, en fait, je suis pas non plus un spécialiste de Bruxelles, mais voilà quoi, c'est à travers en fait les images de toutes ces photos en fait d'avant-guerre, et puis c'est surtout un esprit que j'ai voulu retranscrire. C'est vraiment je sais pas précis ce que je fais, ça ressemble, je ne connais pas cette rue, je sais même pas si c'est possible en fait de voir le palais de justice d'une rue de cette façon d'une rue de Bruxelles, mais peu importe, c'est plus, moi je me replonge, comme vous disiez tout à l'heure, enfin il y avait un côté quick et flup, ce côté voilà, les gamins là, des marolles, donner quelque chose de très humain en fait à cette ville. C'est sûr, c'est vrai que ce qui m'intéresse avant tout quand je travaille mes histoires, c'est les personnages, c'est les êtres humains quoi, et c'est leur donner vie et le cadre. Finalement, je pense que souvent je le dis, je l'évoque plus que je le dessine. Si vous regardez bien, ça, c'est marrant parce que tout le monde me dit ouais, tu connais bien Bruxelles, ça a l'air super précis et tout, et en fait si vous regardez bien, c'est pas très précis. Il y a que des fenêtres, des portails, oui d'accord, je m'inspire bien sûr de ces photos que j'ai, mais après j'ai pas voulu reconstituer le côté vraiment précis de la ville. C'est pas, voilà, c'est évoqué avant tout, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Quand on s'attarde trop dans les décors, on se perd dans les décors, et c'est comme de toutes les spécialisations quoi, il vaut mieux pas se spécialiser, faut mieux rester dans le sujet, c'est l'histoire qu'on veut raconter avant tout, et donc même les décors sont au service de l'histoire, et voilà quoi.
Alors Émile Bravo, d'une manière générale, le paysage est un paysage, je ne veux pas dire terne, mais avec des tonalités assourdies, marron, vert de gris, mastic, gris. C'est un paysage donc bruxellois, noyé par la pluie, avec un côté neige fondue qui est là. Et nos deux héros font tâche, là aussi entre guillemets, dans le paysage. Spirou, avec sa tenue de groom rouge vif, carmin, traverse toutes les cases comme un véritable signal d'alerte. Il est là en permanence à bouger. Quant à Fantasio, lui, avec son épi à l'arrière du crâne, sa coiffure qui ne tient jamais, il a des costumes hallucinants. Il a notamment un moment un pantalon à carreaux bleu pâle qui focalise complètement l'attention du lecteur sur le pantalon. On oublie, je veux dire, tout le drame qu'il y a autour pour se focaliser sur ce pantalon par moment. Et alors, il y a une planche, elle est devant nous, Émile Bravo, qui est étonnante, puisqu'il est mobilisé, il est donc muté au fort d'Ebenhemel, qui était l'énorme fort qui était censé sauver la Belgique de toute invasion, et qui est pris par les commandos de la Wehrmacht à l'issue d'une opération de commando redoutable en planeur. Et c'est lui qui y assiste, mais cette fois habillé en footballeur, avec un ballon sous le bras. Donc il y a une manière de faire s'entrechoquer, je veux dire, la fantaisie délirante et l'irresponsabilité d'un personnage avec quand même le moment le plus dramatique de cette invasion de la Belgique. Émile Bravo.
Il est d'autant plus, si je puis me permettre, irresponsable que c'est à cause de Fantasio que les planeurs peuvent atterrir sur le terrain, puisque c'était le terrain de foot de la caserne et qu'il a fait signer une pétition pour qu'il ne soit pas miné, pour qu'on puisse continuer à jouer au foot.
Alors déjà deux choses pour revenir aux tâches dont vous parliez. En fait, c'est effectivement, mais c'est fait exprès. C'est justement, c'est pour qu'on voit nos héros, pour qu'on les repère tout de suite sur la page, pour bien suivre. Ça c'est un peu le fil conducteur, cette tache rouge qu'est Spirou. Pour en revenir à cette image et à cette histoire en fait de planeur qui atterrit sur le terrain de foot, vous savez quoi, c'est vrai. c'est une vraie histoire belge, quoi, on dirait. Mais absolument, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des terrains de foot au-dessus de Benhamel. La hiérarchie voulait miner ça, quoi, en se disant, bon, bah, on sait jamais. Et puis tout le monde, les soldats ont dit, bah non, on joue au foot là-dessus. Et voilà, c'est vrai, c'est une réalité. Bon, après, que si c'est, on peut bien imaginer que Fantasio soit à l'origine d'une pétition pour jouer au foot, quoi. Mais bon, mais ce genre de... Parce que c'est une blague, mais ça désamorce tout le côté dramatique et j'essaye de faire ça constamment, quoi. Dès que c'est trop tragique, il y a toujours, heureusement qu'il y a Fantasio d'ailleurs pour ça. Mais voilà, quoi. C'est j'utilise ce personnage constamment pour alléger un peu le propos, quoi. Mais en ce qui concerne cet épisode, voilà, oui, c'est la réalité.
Là où vous n'allégez pas le propos, c'est ce que vous racontez des relations franco-belges, hein, qui ne sont pas franchement à l'amitié totale en 40. On voit cette scène de frontière qui, j'imagine, quand vous l'avez dessinée, résonnait aussi beaucoup avec l'actualité, avec l'accueil des réfugiés, et ou plutôt comment on ne les accueille pas, avec cette barrière. Donc c'est l'exode en Belgique, les populations fuient les combats et essayent d'aller se réfugier en France. Et là, il y a un officier très obstiné et dédaigneux qui leur refuse l'accès. D'où vient ce personnage? On en parlait tout à l'heure avec François Angelier. Effectivement, on dirait un peu Pierre Freinet chez Renoir.
En fait, il représente un peu cette France conservatrice, voilà quoi, à travers l'armée, cette armée française qui était la meilleure du monde de l'époque, voilà, ce côté vraiment aucun doute sur rien. Et cet épisode, c'est vraiment produit là aussi. Ça a duré quelques heures, mais pendant quelques heures, on ne laissait pas passer en fait les réfugiés belges, quoi. C'est assez terrifiant, mais voilà. Et c'est une façon de dire à tout le monde, on peut se retrouver, on peut être demain les réfugiés. On peut se retrouver réfugié devant une frontière et voilà, on nous empêche de passer, ça paraît complètement absurde, quoi. En plus, vraiment, dans ces circonstances-là, oui, c'est dingue, mais c'est réel, là aussi.
Alors, tu vois, Antoine parlait de cet officier français droit dans ses bottes et déjà vaincu, mais il ne le sait pas. On va lui apprendre très vite. Ce qui est émouvant dans cet album, Émile Bravo, c'est que la sociologie est très fouillée. Et à aucun moment, il y a le manichéisme. Je prends l'exemple du Moustique Hôtel. On sent qu'il y a un concierge en chef qui sera résistant, à côté d'un qui sera plutôt soumis et qui ira dans le sens du poil. Pareil dans la police. Il y a une sorte d'inspecteur hystérique. Et on sent qu'un autre inspecteur, qui est au-dessus de lui, d'ailleurs, un commissaire, lui sera plutôt du côté de la résistance. Donc là aussi. Et puis chez les prêtres, parce qu'il y a quand même l'anticléricalisme d'Émile Bravo explose. Mais intelligemment, si j'ose dire, puisque dans l'orphelinat d'où vient Spirou, il y a ces figures qu'on connaît bien au travers de Mirbeau et autres, de prêtres qui veillent sur les chères petites blondes, qui veillent un peu trop d'ailleurs par moments sur les chères petites têtes blondes, et qui leur collent des raclées absolument. En plus, il est rougeau, alors ça devient effrayant. Et à côté, il y a un prêtre qui ressemble un peu à l'abbé Pierre. On sent que lui, c'est un futur où c'est peut-être déjà un prêtre ouvrier, qu'il est plus dans la compréhension, dans l'intelligence des gens plutôt que dans le dogmatisme. Alors, il y a aussi chez vous toujours ce besoin d'éviter comme ça, de faire le blanc, le noir, une espèce de frontière tracée entre les bons et les méchants et de montrer que les choses sont d'elles-mêmes complexes.
Bah oui, absolument. Enfin, ça correspond à ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vu des gens dans tous les milieux, en fait, des gens qui étaient plutôt chouettes et d'autres qui étaient affreux, quoi. Donc, oui, bah, c'est bien ça la condition humaine, c'est qu'on trouve vraiment de tout. Ça fait bien longtemps que j'ai compris que rien n'était blanc, rien n'était noir, tout était gris. Et c'est ce qui m'intéresse en plus. Je vois ce qu'on nous a inculqué quand on était enfant. On aime bien choisir notre camp quand on est enfant. On aime bien savoir un petit peu ce qu'il faut penser. Et ben, c'est une façon de leur dire tout de suite, on ne sait pas, vous allez vous faire votre propre opinion, mais c'est très difficile, en fait, de vous dire où est le bien, où est le mal. Parce que, encore une fois, il faut replacer cette histoire dans son contexte. Il faut imaginer que j'ai fait ça sans connaître, sans savoir ce qui s'est passé, sans savoir ce qui va se passer, sans savoir, en fait, qui va, ce que vous dites, par exemple, on sent qui va devenir résistant. Pas. Oui. Moi personnellement j'en sais rien, j'en sais vraiment rien. Lecteur, oui, bien sûr. Mais avec déjà cette lecture, avec ce recul en fait, en connaissant en fait la fin de l'histoire, enfin de l'histoire avec un grand H. Alors que ce qu'il faudrait, c'est vraiment sortir de
tous ces a priori là, enfin, et de cette histoire, pour essayer de vivre ça au jour le jour et de se dire peut-être que comprendre surtout en tout cas ce qui se passe psychologiquement en fait dans l'esprit de chaque personnage pour savoir en fait par quoi ils peuvent être attirés, par quel camp ils peuvent être attirés, par quelle idée. Donc c'est ce qui m'intéresse.
En revanche, les seuls dont la psychologie n'est pas fouillée, et où là on est dans le manichéisme graphique, je dirais presque, et presque l'abstraction, on le voit ici sur cette vignette agrandie, des soldats allemands marchant au pas de loi dans un alignement impeccable dans Bruxelles occupé, ce sont les Allemands, précisément. C'est-à-dire que c'est généralement, on ne voit même pas leur visage, ils sont cadrés à ras de bottes, avec ce bruit des bam, 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 le bruit de bottes, et vous l'avez représenté comme ça, comme une menace presque abstraite et profondément graphique.
Voilà, je voulais essayer de synthétiser graphiquement la chape de plomb que représentait en fait l'occupation allemande, parce que justement quand j'entendais les témoignages, on sentait. Je me souviens même d'un témoin en fait qui me disait qu'il avait pas vu d'Allemands pendant toute la guerre, mais il sentait une ambiance pesante. Et en fait, je me suis dit que la meilleure façon de représenter ça, c'était ce côté charbonneux. Et alors, ce qui signifie quelque chose de très simple en fait. Si vous regardez en fait mes dessins, en fait, je traite les soldats allemands comme je traite le matériel allemand. En fait, pour moi, c'est du matériel. C'est du matériel de guerre, en fait. Ça ne pense pas, parce que c'était comme ça, et c'est au service d'une armée nazie, une armée de destruction. Voilà, donc, quand on porte un uniforme nazi, il n'y a rien d'humain. Et puis, il y avait aussi quelque chose. C'est pour m'éloigner, en fait, du côté esthétique et graphique de l'uniforme nazi qui fascine tellement de gens. C'est tellement... Je sais que même les enfants, ça les fascine. Moi, quand j'étais enfant, j'étais fasciné aussi par les uniformes nazis. Ça dégage une telle... je sais pas, une telle puissance, et à la fois aussi, c'est graphiquement, c'est assez beau, et ça, il faut s'en éloigner à tout prix, il faut s'en éloigner comme de la peste, quoi. Et le fait de pas traiter les uniformes de cette façon, de les faire charbonneux, on voit pas d'insigne, voilà, quoi. C'est du matériel de destruction, c'est tout.
Alors effectivement, la Wehrmacht est une matérialité sombre qui écrase tout sur son passage et qui est là pour détruire et asservir. Par contre, là où vous faites de la psychologie, et il faut en faire, c'est pour mettre en scène les espions, les collaborateurs, les traîtres, les gens qui sont infiltrés dans le mouvement de résistance. Et il y a une extraordinaire scène en terrasse où un indicateur, je dirais quelqu'un qui mime la générosité et qui se fait passer pour un résistant, quelqu'un qui donne des faux papiers, essaie de séduire avec tout un côté sinueux, un peu bellâtre, un bellâtre blond. Là par contre, vous êtes confronté non pas à une massivité, à une espèce de noirceur comme ça, rude et soudaine, mais à quelque chose de pervers, de sinueux, d'insinuant. Et là, il faut jouer sur autre chose dans le découpage de la planche et dans le passage d'un visage à un autre. Surtout que vous avez choisi pour cet indicateur un blondinet suave, comme on en avait à l'époque au théâtre ou au cinéma.
Oui, il y a de ça. Comme vous dites, c'est exactement ça. Il y a la perversion, en fait, d'un agent de la Gestapo. En fait, voilà, ça se fait passer pour, et à ce moment-là, donc
c'est pour ça qu'on revient sur un traitement humain, hein, parce que voilà, je suis un être humain, donc voilà, donc et c'est surtout ce qui m'importait, c'est parler de ce climat qu'il y avait à cette époque. En fait, tout le monde se méfiait de tout le monde et on essayait de se raccrocher à quelqu'un, mais il se trouvait que c'était pas forcément la bonne personne. Et surtout quand on s'attache aux apparences, quoi. Et ça, c'est vrai que les gens de cette époque-là me disaient, on avait peur parce qu'aussi on avait peur de parler. Parce qu'on ne savait pas, on pouvait être dénoncé à tout moment, quoi. Donc ça aussi, j'ai essayé à travers ce personnage qui a l'air plutôt sympathique au départ, de montrer que le mal.
Les files d'attente.
Oui,
les files d'attente, vous les avez beaucoup travaillées. On sent qu'il y a des échanges dans les files d'attente.
Oui, mais je, en fait, dans mon esprit, je l'ai faite, la file d'attente. Oui. J'ai attendu 2 heures pour avoir à manger et les gens discutent autour de moi et discutent plutôt à voix basse. Et c'est là où les gens commentent, en fait, ce qui se passe au moment où on a faim, qu'on parle vraiment, où la parole, à mon avis, se libère un petit peu plus parce qu'on a faim.
On a faim et on rit aussi. Il y a 2 scènes qui se font écho entre le premier et le deuxième chapitre. Ce sont des scènes de déportation que vous représentez d'une façon très étrange. La première, c'est la déportation des Allemands de Bruxelles au moment où la guerre éclate. Et alors là, la plupart des Allemands sont des Juifs allemands réfugiés, mais on ne fait pas la différence. Même chose en France, et on va les envoyer dans des camps. Et là, on part en rigolant. Ah, on nous envoie en France, la patrie des droits de l'homme, sans conscience donc de ce qui va arriver. Et puis, deuxième scène, alors là, beaucoup plus grave et beaucoup plus glaçante, une scène de train, justement, train de déportation, et on part presque, un peu inquiet, mais presque heureux de retourner, pour certains, vers l'Est, etc. Alors, on sent bien, on verra où vous amènent les 2 prochains chapitres, mais que vous avancez vers quelque chose de plus en plus difficile à représenter, puisque toute cette histoire, vous racontez la Shoah, vue par des enfants depuis Bruxelles, jusqu'où peut-on aller dans la représentation? J'imagine que ce sont des questions qui vous travaillent énormément. Et alors, comment est-ce qu'on construit des scènes comme ça, assez joyeuses, de départ vers l'horreur?
J'ai construit cette scène en me mettant à la place de ces gens qui n'étaient absolument pas au courant de là où ils allaient. Enfin, il y avait des bruits qui couraient, mais quand on espère, on pense pas à sa mort. Comme on les envoyait, les gens qui partaient en fait en Allemagne ou ailleurs, en fait vers l'Est, il y en avait énormément. Il y avait comme justement ce dont je parle au départ, où Fantasio parle travailler en Allemagne, comme des centaines de milliers de Français, Belges, Hollandais l'ont fait. Hein. C'était assez normal de partir en Allemagne. Puis là, ils sont déportés. À aucun moment, personne ne pense à l'extermination. Enfin, c'est pas possible. Au pire, quand on envoie des centaines de milliers de personnes comme ça par train, c'est fatalement pour aller travailler. C'est pour les nazis ont l'esprit pratique, donc c'est ce à quoi ils pensent. Donc, mettez-vous à leur place, oubliez tout ce que vous savez, et vous montez dans ce train, et c'est tout. Et peut-être une petite appréhension, mais l'idée, c'est ça aussi, c'est aussi de faire comprendre que il y a des gens aussi qui ont suffisamment de recul pour commencer à essayer, pour comprendre ce qui peut éventuellement se passer également. Mais ça va pas de soi, quoi.
Ce que vous racontez, vous le montrez. C'est-à-dire qu'il y a des bruits, il y a des rumeurs, il y aurait des massacres de juifs à l'Est. Ce sont des informations qui arrivent dès 1942. On commence à savoir ça. Et ces informations, ce sont des peintres, un couple de peintres qui est dans ces 2 premiers chapitres et qui vont représenter par la peinture ce qu'ils vivent tous les jours. Est-ce qu'il y a une volonté de mise en abîme aussi de cette question de la représentation et de la figuration de l'horreur via ce couple de peintres?
Absolument, bien sûr. Ces peintres-là, finalement, notamment le peintre Félix, à travers en fait sa peinture, en fait on ressent ce qu'il vit, en fait l'oppression. Et au-delà de la bande dessinée, j'ai aussi à travers la peinture en fait un autre mode d'expression à travers ce personnage, en fait, pour exprimer une angoisse terrible que je ne vais pas me mettre à dessiner des tableaux. Donc c'est à travers lui en fait que j'évoque cette angoisse. C'est très important.
On est dans une histoire qu'on dira pour enfants. Émile Bravo est d'ailleurs prépubliée dans le journal Spirou. Et pour autant, vous parlez de questions graves, la guerre, l'antisémitisme, la déportation. Vous parlez aussi de l'éveil des sens, de cet ingénu qu'est Spirou. Dans le journal d'un ingénu, il rencontrait cette jeune soubrette d'hôtel qui s'avérait être une agente du Comintern juive de Danzig et qui est le grand amour de Spirou dans ce que vous racontez. Il y a aussi une jeune fille qui est très intéressée par Spirou, qui habite à la campagne, dont les parents aussi ont disparu dans la tourmente de la guerre. Et Spirou, là, est encore ingénu, ne comprend pas trop. Il faut qu'on lui ouvre les yeux pour qu'il comprenne qu'une jeune femme puisse le désirer. Sauf que l'inconscient de Spirou parle. Spirou a des cauchemars, comme Tintin pouvait en avoir, là encore, référence à Hergé. Et je pense notamment à cette scène où il va voir Fantasio qui, lui, dont il suspecte qu'il a une maîtresse, donc incarnant l'homme dont la sexualité est éveillée, ayant successivement plusieurs femmes sur ses genoux, dont ces jeunes filles, et puis avec ce moment terrifiant d'irruption de monstres, d'espèces de zombies démoniaques nazis qui arrivent. Comment est-ce que vous avez travaillé ces séquences de rêve? Et là encore, parler à des enfants de l'éveil des sens et de sexualité, comment on trace la frontière, Émile Bravo?
Toujours en se souvenant de son enfance et de ses rêves qu'on faisait, et puis de la recherche de la compréhension en fait du sexe opposé, enfin des femmes. En fait, en gros, résumons de façon très simple. Spirou a été éveillé par une fille qui lui a fait comprendre que le monde en fait voilà est vaste, qu'il faut sortir de son hôtel, qu'il y a une autre vie au-delà de l'hôtel, dont il tombe amoureux. C'est fantastique. Cette fille disparaît. Elle incarne tous ses fantasmes. Mais n'empêche qu'elle disparaît et quelque part en fait il rencontre aussi d'autres filles, donc dont cette jeune fille qui s'appelle Mike. Et en fait, Mike, c'est dans le premier album, elle lui dit quelque chose qui, à mon avis, est très marquant, en fait, pour un enfant. Elle lui dit, je vais grandir plus vite que toi. Ça, c'est quelque chose de très choquant, je pense, pour un enfant, parce que lui a envie de grandir aussi, de devenir un homme. Et qu'une fille lui dise qu'elle va, malgré son âge, parce que, en fait, elle est plus jeune que Spirou, hein, et Spirou lui dit, mais t'es trop jeune, tout ça. Et lui dire, en fait, qu'elle va sortir rapidement de son enfance, et peut-être même de son adolescence, bien plus vite que lui, je pense que ça doit tellement être troublant qu'il est troublé effectivement par cette fille, quoi, inconsciemment. Et donc, comme sa promise, enfin son amour est loin, et on sent bien qu'inconsciemment le temps passe et l'une peut-être remplace l'autre. Enfin, on ne sait pas, c'est très vague, hein, et je veux pas dévoiler non plus la fin, quoi. Mais c'est des petits questionnements comme ça qui nous font écho et qui nous construisent aussi et qui nous font avancer et évoluer, quoi. Donc c'est simplement ça que je voulais. Et que je voulais raconter.
D'ailleurs, le cauchemar n'apparaît pas avec une sorte de la case traditionnelle du lit et du sommeil. Il apparaît brusquement, il casse un peu l'histoire réaliste, puisqu'on voit deux personnages, notamment Spirou, s'éloigner dans la rue, et hop, sans qu'on le sache, on passe dans le cauchemar. Il n'y a pas du tout une mise en scène du cauchemar, je dirais, traditionnelle, picturale, comme on en voit au cinéma. On a l'impression, au début du cauchemar, qu'on est dans la réalité. Donc là aussi, il y a une volonté de brouiller les frontières et les limites.
Oui, toujours, mais en même temps, j'adore les cauchemars parce qu'en fait, les rêves, en fait, c'est du Hergé. Hergé m'a appris ça, c'est dans Hergé. Je me souviens que quand je regardais les cauchemars ou les rêves de Tintin, ça me faisait poser mille questions. Et je trouvais qu'il les transposait très très bien. Enfin, ce côté complètement absurde, parce que moi, j'essayais de me souvenir, quand je me souvenais de mes rêves, je disais, mais, ah oui, ça a l'air logique, mais ça ne l'est pas. Et en fait, je cherchais toujours à faire le lien, en fait, je cherchais à savoir ce que ça voulait dire exactement. Et je trouvais que Hergé le faisait très 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 bien dans ce côté vraiment illogique et d'une case à l'autre, c'est plus du tout les mêmes personnages, et c'est ce qui se passait effectivement dans les rêves. Tout était absurde, et là c'est un petit peu la même chose, sauf que peut-être que ça raconte quand même l'inconscient de Spirou, ce qui se passe, son côté hyper
troublée et ses contradictions. Non seulement ça fait un petit résumé de ce qui se passe juste avant, mais ça prépare la suite en fait de l'histoire. Et c'est ce à quoi servent les rêves, paraît-il. C'est pour te préparer à affronter ton avenir. Donc ce qui est le plus dur.
Est-ce que l'on peut dire quelques mots du troisième chapitre, puisqu'il ne s'agit pas de volet, ni de temps, ni de partie, il s'agit de chapitre, donc Émile Bravo.
Alors, évidemment, pour la suite, ça va être de pire en pire, parce que ça a été de pire en pire, évidemment. Quand le régime nazi s'est acculé, ça a exacerbé sa violence et c'était une horreur. Donc, c'est ça que je veux parler. En fait, c'est une façon de dire aux enfants, ne laissons pas un régime comme ça s'installer, parce que pour s'en débarrasser, c'est terrifiant. Il vaut mieux appréhender et s'en prévenir, en tout cas. Donc, voilà, quoi. Parce que, bon, vu ce qui se passe aujourd'hui en Europe et dans le monde, malheureusement, bon, ça suffit. Encore une fois, le mal, c'est pas les autres. Le mal, c'est nous. Il faut vraiment se plonger, faire une introspection pour sortir en fait de toutes nos frustrations et en tout cas ne pas chercher la cause chez l'autre. Voilà.
Merci Émile Bravo d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Nous étions au cœur de cette exposition qui vous est consacrée jusqu'au 28 novembre à Bruxelles, à la Maison de Région. On peut découvrir, alors grande taille, les planches de l'album qui vient de sortir. Contrairement à ce que je disais en début d'émission, l'album est en librairie. Un peu plus loin, Vers l'horreur, donc le second chapitre, je vous cite, de L'Espoir malgré tout, la tétralogie des aventures de Spirou et Fantasio sous l'occupation, que vous publiez aux éditions Dupuis. Merci à vous. Merci à Mathieu Poulalec de chez Dupuis de nous avoir permis de vous rencontrer, d'organiser cette expédition bruxelloise de Mauvais Genre. Toute l'équipe de l'émission, Laurent Polleret, Claire Poinsignon, Claire-Martin Dugard, Antoine Guillot et François Angelier, vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec les vampires et à l'occasion de l'exposition qui leur est consacrée par Mathieu Orléans à la Cinémathèque. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
We come from a distant past that we've forgotten. And now we look up and aspire to the stars.